Et c'est l'heure des informations avec Anne Fockenberg. Bonjour Anne.
Bonjour Lucas, bonjour à tous. Le minimum humanitaire tarde à se mettre en place à Calais, où les migrants sont au moins 450 actuellement. L'injonction du Conseil d'État est à moitié respectée par l'État, selon les associations sur place. Nous entendrons François Guénoc de l'Auberge des migrants au début de ce journal.
L'Espagne pourrait dépasser la Grèce cette année en nombre d'arrivées sur son territoire. La petite enclave de Ceuta est particulièrement exposée cet été. Le poste frontière avec le Maroc a même été fermé quelques jours. Les autorités sont débordées. Les querelles diplomatiques avec Rabat n'arrange rien. Analyse à suivre de Sébastien Berriot.
La déception des Palestiniens face à l'administration Trump pour la relance d'un processus de paix au Proche-Orient. La gestion américaine de la crise sur l'esplanade des mosquées a joué le rôle de révélateur, va nous dire Étienne Monin.
Enfin, Facebook s'attaque à la vente en ligne. Le réseau social lance une nouvelle fonction digne du Bon Coin. Le succès français risque d'être sérieusement concurrencé par le géant du net.
60 et 55 migrants sont respectivement hébergés dans les centres d'accueil de Troisvaux et de Bailleul dans le Nord-Pas-de-Calais. Chiffre du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, interviewé dans le journal Le Figaro ce matin. Ces centres ont été créés en réponse à l'arrivée de réfugiés à Calais, 9 mois après le démantèlement de la jungle. Gérard Collomb rappelle qu'il ne souhaite pas la reconstitution de nouveaux camps, même si actuellement 450 migrants au moins sont présents à Calais et dans les environs 700 selon les associations. Il y a 15 jours, le Conseil d'État a obligé l'État et la commune à mettre en place un dispositif humanitaire adapté. Où en est-on aujourd'hui? La situation s'est améliorée selon François Guénoc, le vice-président de l'association L'Auberge des migrants, mais il y a toujours des carences.
Le tribunal administratif et le Conseil d'État ont enjoint le gouvernement de mettre en place ce qu'on peut appeler un minimum humanitaire, c'est-à-dire effectivement accès à l'eau, accès à des toilettes, accès à des douches. Ce dispositif qui avait été annoncé très vite par le ministre tarde à se mettre en place. Aujourd'hui, il y a seulement une dizaine de toilettes qui ont été installées près de l'accueil du jour du secours catholique et un point d'eau. Rien pour l'instant rue des Verrotières, qui est le principal endroit où nous on distribue l'alimentation, et rien non plus sur les autres emplacements prévus. Donc ça, c'est le premier problème, un retard dans l'exécution de ces injonctions. Le préfet nous a réunis la semaine dernière, nous a expliqué que c'est très difficile, c'est les vacances, le matériel n'est pas disponible, etc. En tout cas, pour l'instant, ça traîne. On a aussi peur que le dispositif soit sous-dimensionné, compte tenu du nombre de migrants présents à Calais aujourd'hui. Et on s'oppose aussi au projet du préfet, qui est de ne réserver les douches qu'aux personnes vulnérables. Et dans son esprit, la définition des personnes vulnérables est très restreinte. Il s'agirait uniquement des femmes, des enfants, des personnes malades. La majorité des personnes présentes à Calais aujourd'hui, ce sont des jeunes gens, quelquefois mineurs, souvent entre 20 et 25 ans. Et si le préfet adopte cette définition restreinte des personnes vulnérables, les douches ne seront proposées qu'à un faible nombre de personnes. Et il y aura des grosses tensions sur le terrain, parce que la Vie Active, qui est l'association qui va être chargée de gérer ces douches, aura de gros problèmes pour expliquer à certains pourquoi ils n'ont pas accès à des douches alors que d'autres ont accès. Donc ça risque d'être très tendu sur le terrain.
Des propos recueillis par David Ravier. La frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole de Ceuta a rouvert hier après une semaine de fermeture pour les marchandises, mesure inédite décidée pour faire diminuer la pression migratoire. Les tentatives de franchissement de la frontière par des migrants africains se sont multipliées cet été, tout cela sur fond de relations compliquées entre Madrid et Rabat. L'analyse de Sébastien Berriot.
C'est la première fois que le poste frontière de Ceuta reste fermé aussi longtemps pour des raisons de pression migratoire, une mesure radicale décidée de manière conjointe par Madrid et Rabat. Mais c'est surtout l'Espagne qui est à l'origine de cette initiative. Les unités de la Guardia Civile et de la Policía Nacional ont vécu un été très éprouvant, avec de plus en plus de tentatives de passage de clandestins. Une impuissance des forces de sécurité espagnoles qui s'est illustrée il y a quelques jours lorsque 187 migrants ont réussi à passer côté espagnol en courant à toute vitesse au petit matin à travers le poste frontière. Les agents de la Guardia Civile, totalement débordés, n'ont rien pu faire pour arrêter le groupe. Si l'Espagne a souhaité fermer la frontière aux marchandises pendant une semaine, c'est donc pour faire retomber la pression migratoire, mais c'est aussi parce que la coopération sécuritaire avec le Maroc ne serait pas toujours pleine et entière. Rabat considère les deux enclaves de Ceuta et Melilla comme partie intégrante de son territoire, et certains gestes symboliques sont mal vécues, comme par exemple l'annonce de la visite le mois prochain à Ceuta de l'ex-reine Sofia, qui doit participer à une cérémonie militaire. Cette annonce pourrait expliquer un certain relâchement des Marocains en ce moment dans la surveillance de la frontière, histoire de montrer à Madrid que le Maroc est mécontent et qu'il espère toujours un jour récupérer Ceuta et Melilla.
Explication signée Sébastien Berriot. Aux États-Unis, nouvelle volte-face de Donald Trump sur les violences du week-end dernier en Virginie qui ont fait un mort. Quitte à contredire sa conférence de presse d'il y a deux jours au cours de laquelle il avait condamné les suprémacistes blancs, le président américain renvoie dos à dos l'ultra-droite et les militants antifascistes réunis à Charlottesville. Il déclenche une nouvelle tempête politique dans le pays. Le sénateur démocrate de New York considère par exemple que ses déclarations lèvent désormais toute ambiguïté sur le véritable état d'esprit du président.
Et les Américains, qui sont traditionnellement en première ligne dans le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens, semblent absents depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche.
La relance de pourparlers de paix semble aujourd'hui compromise. Le président américain a perdu la confiance des Palestiniens depuis la crise de l'esplanade des mosquées. À Jérusalem, c'est une correspondance d'Étienne Monin.
Si les Palestiniens affirment qu'il n'y a pas de changement dans la stratégie politique, ils peuvent difficilement nier un changement radical de ton après avoir coopéré avec les Américains. Ils dénoncent l'absence de concret, les sujets abordés sont périphériques. Il n'y a aucun des éléments fondamentaux pour les Palestiniens, estime Nabil Shad, conseiller du président palestinien.
Monsieur Donald Trump ou ses collaborateurs n'ont rien dit. Ils n'ont même pas formulé un mot en faveur de la solution à deux États ou pour dénoncer le caractère illégal de la colonisation.
Le ton des Palestiniens a changé après la crise autour de la mosquée Al-Aqsa. L'implication américaine a agi comme un révélateur, dit Anan Ashraoui, membre du comité exécutif de l'OLP.
Pour nous, c'était un signal très clair qu'il y avait un problème sérieux dans l'approche américaine, dans leur compréhension des causes du conflit et donc dans la recherche de solutions.
La délégation américaine pour le processus de paix est attendue dans la région. Avant la fin du mois, les Palestiniens demandent des gages, sinon ils envisagent de reprendre les actions à l'international que les Américains leur avaient demandé de suspendre pour créer un climat de confiance.
Correspondance à Jérusalem d'Étienne Monin. 28 morts, 80 blessés, le nord-est du Nigeria, de nouveau frappé par un triple attentat suicide. Trois femmes kamikazes se sont fait exploser dans la ville de Mandarari, dans l'état du Borno, près du lac Tchad. Le district a été récemment la cible de nombreuses attaques du groupe djihadiste Boko Haram. Le dernier souffle d'un long conflit armé en Colombie, le désarmement des FARC s'est achevé hier soir. Les forces armées révolutionnaires ont rendu plus de 8000 armes et 1 300 000 munitions, des armes qui seront fondues et transformées en trois monuments érigés à Bogota, au siège des Nations Unies à New York ainsi qu'à La Havane. Le célèbre site internet français Le Bon Coin va-t-il bientôt être concurrencé par le géant du net américain Facebook ? Le réseau social vient de créer une nouvelle fonction de vente en ligne, ça s'appelle Marketplace. Mélodie Pépin, Facebook veut devenir un intermédiaire incontournable pour les Français friands de brocantes en ligne.
Incontournable pour discuter, partager, mais aussi lire des articles en ligne, regarder des vidéos en streaming avec le lancement d'une plateforme de contenu à venir et maintenant acheter et vendre en ligne. On a presque oublié qu'à l'origine, Facebook était seulement un réseau social pour échanger entre étudiants américains. Avec Marketplace, Facebook propose de mettre en relation acheteurs et vendeurs en diffusant la photo de l'objet en vente en fonction de la proximité des acheteurs potentiels. Pas de compte à créer, tout se fait à partir de son profil, une identité certaine. Certifié pour éviter d'éventuelles arnaques, un gage de confiance, avance Facebook. Le Bon Coin doit-il s'inquiéter face à cette concurrence ? Pas forcément, selon plusieurs spécialistes qui doutent qu'un réseau social s'impose comme référence pour l'achat en ligne. Déjà en place aux États-Unis, Marketplace a enregistré 18 millions d'annonces au mois de juin, quand Le Bon Coin affiche 24 millions de visiteurs. Néanmoins, Facebook peut se vanter d'avoir plus de 2 milliards d'acheteurs et vendeurs potentiels à terme. Marketplace sera progressivement étendu à 16 autres pays d'Europe. De quoi engranger toujours plus de pubs, le nerf de la guerre, offrir toujours plus de nouvelles fonctions pour être attractif auprès des annonceurs et fournir à ses membres tout ce qu'ils attendent de leurs expériences sur la toile pour mieux les verrouiller ou les fidéliser, dit plutôt le mastodonte américain.
Éclairage signé Mélodie Pépin. Le temps de ce mercredi, ciel globalement nuageux avec des averses sur les reliefs dans le Massif central ou encore les Pyrénées. Des bancs de brouillard actuellement de la Bretagne jusqu'au Hauts-de-France. Temps plus lumineux du Golfe du Lion jusqu'aux Alpes. Et les températures, 18 à Cherbourg, 20 à Paris, 21 à Bordeaux, 22 à Strasbourg, 25 à Lyon et jusqu'à 28 en ce moment à Marseille, Lucas Mangé.
Merci Anne Fauconberg. On vous retrouve à 7h30 pour un rappel des titres. Dans un quart d'heure, la revue de presse internationale de Jacqueline Fardel va nous raconter que certains pays souffrent du manque de touristes. Après avoir évoqué ici même lundi matin l'Europe qui craque sous le tourisme, à l'inverse, certains pays comme l'Algérie aimeraient en avoir beaucoup plus. À 7h32 dans Itinéraire bis, Clément Salzar reviendra sur les conséquences de la crise financière mondiale qui a 10 ans avec la crise des subprimes par l'exemple grec. À partir de 7h37, je vais recevoir Garance Lequen, journaliste qui a enquêté longuement sur les crimes de guerre syriens, qui a notamment documenté l'opération César, du nom de code de ce photographe militaire syrien, qui est parvenu à faire sortir les preuves des assassinats, tortures et exécutions du régime. Et avec elle, Clémence Bechtart, avocate qui représente une famille franco-syrienne, qui cherchait à connaître la vérité sur la disparition de deux proches dans les prisons du régime. Qui va juger les crimes en Syrie, alors que la justice internationale semble n'avoir aucun moyen d'action? C'est la question, les questions que nous nous poserons tout à l'heure. À 8h30, nous parlerons d'un autre grand criminel de guerre avec Olivier Guèze qui publie aujourd'hui La disparition de Joseph Mengele, un roman, mais aussi une enquête sur la fuite en Amérique du Sud du médecin tortionnaire d'Auschwitz qui ne fut jamais arrêté, jamais jugé. Ce sera juste après le journal de la culture. Pour le moment, il est 7h11. Et Jérôme Clément, avec ses brèves histoires de la culture, nous emmène en 1965 où Niki de Saint-Phalle présente ses premières nanas.
Brèves histoires de la culture par Jérôme Clément.
1965 marque un tournant dans l'inspiration artistique de Niki de Saint-Phalle. Connue jusque-là par les professionnels de l'art, elle propose des sculptures libres et joyeuses, ces nanas, qui la rendront célèbre.
Les nanas représentaient pour moi le symbole de la femme joyeuse, libre, sûre d'elle-même. C'était les nanas au pouvoir, c'était les femmes au pouvoir.
Niki de Saint-Phalle est une autodidacte qui découvre l'art comme une thérapie, alors qu'à 22 ans, elle est internée pour une grave dépression. Elle se sent alors proche de Jean Dubuffet, inventeur du concept d'art brut, et du douanier Rousseau. La création, dit-elle, doit donner un semblant d'ordre poétique au chaos toujours menaçant. Après ses premiers essais, elle pourrait devenir une icône de la peinture moderne. Belle et intelligente, elle a été mannequin. Elle refuse cependant un rôle d'égérie ou de muse au sein du groupe des nouveaux réalistes qui l'accueillent. Elle est d'abord soucieuse de s'affirmer en tant que femme créatrice. Refusant le rôle traditionnel que son milieu lui assigne, « Je n'accepterai pas, dit-elle, les limites que ma mère tentait d'imposer à ma vie parce que j'étais une femme. » Elle répond d'abord à la violence de la vie. Elle confessera plus tard que son père l'a violée à l'âge de 11 ans.
In shooting myself, I took aim at society and its injustices. In shooting my own violence, I took aim at the violence of the times.
Elle met au point une procédure artistique, les tirs. Il s'agit de disposer sur une toile divers éléments en dissimulant à l'intérieur des poches de peinture, puis de se poster à quelques mètres et de tirer sur la toile à la carabine. Les poches de couleurs en éclatant font alors saigner ou pleurer l'œuvre. Ou bien, elle invite le public à lancer lui-même des flèches sur son Saint-Sébastien. Elle découvre l'œuvre de Gaudi à Barcelone, en particulier le parc Güell, célèbre pour son décor de céramique colorée. Elle en retire deux idées. Celle d'un art coloré aux formes arrondies et naturelles, qui la pousse vers la sculpture, et celle d'une création au service du public. Les nanas sont au croisement de ces deux envies. Elles sont féminines et leur courbe rebondie évoque la maternité ou les mythes de fécondité. Mais elles s'affirment, seules, pas de mecs. Les hommes, dit cette féministe décidée, sont de pauvres types, tout juste bons pour décorer mon lit ou cirer mes bottes. Pour autre chose, je n'en ai pas besoin.
Moi, je m'appelle Niki de Saint-Phalle et je fais des sculptures monumentales.
Propos précurseurs, bien avant mai 68, du féminisme en France. Propos radicaux qui ne l'empêchent pas, à côté de ses créations personnelles, de mener avec son second mari, le sculpteur suisse Jean Tingeli, des œuvres communes. C'est ensemble, par exemple, qu'ils réaliseront la fontaine Stravinsky près du centre Beaubourg, où tournoient dans les jets d'eau les sombres machines déjantées de l'un et les personnages colorés de l'autre. En investissant le terrain de la sculpture monumentale, jusque-là réservé aux hommes, Niki ne cherche pas seulement à affirmer son statut d'artiste de premier plan. Elle saisit aussi l'occasion de s'éloigner, par la commande publique, du marché de l'art et de ses spéculateurs. Elle ira jusqu'à financer elle-même la création d'un parc, le Jardin des Tarots, en Toscane. Elle a pu voir l'explosion du marché de l'art, la disparition du système traditionnel de galeries au profit de galeristes installés dans plusieurs pays, stockant et revendant comme on joue en bourse. On a reproché à Niki de vendre dans les boutiques des musées des petites nanas gonflables pour se rapprocher du grand public. Aujourd'hui, on applaudit quand Jeff Koons expose des sculptures gonflables dans les salles historiques du Palais de Versailles lors d'une opération de marketing croisé ou de cross-branding, comme on dit dans les écoles de commerce. La grande exposition rétrospective présentée au Centre Pompidou en 2014 a permis de montrer que Niki de Saint-Phalle est tout simplement un des plus grands artistes de la seconde moitié du XXe siècle, tout genre confondu.
Alors j'ai la folie des grandeurs. Mais j'ai la folie des grandeurs féminines, c'est différent. Mon monde, il est courbe, il est rond, c'est un monde féminin, et on voit qu'est-ce que c'est la folie des grandeurs d'une femme qui, enfin, a attendu 20 siècles pour pouvoir se manifester comme je le fais aujourd'hui.
Les brèves histoires de la culture de Jérôme Clément et Jean Rosa, réalisées par Annabelle Brouard. Bonjour Clément Salzard.
Bonjour Lucas.
Et bonjour Dany Legras.
Bonjour Lucas.
Clémence, avec vous aujourd'hui le troisième volet de notre série d'itinéraires bis qui se consacre aux 10 ans de la crise financière, la fameuse crise des subprimes, mais avec un détour ce matin par la Grèce.
Oui, tout à fait. On va tout de suite à Thessalonique, la deuxième ville du pays. J'y ai notamment rencontré Malamas en plein cours de kickboxing.
Tout le monde en Grèce sait que désormais, on vit, on travaille au jour le jour, maintenant pour aujourd'hui. Pour demain, on ne peut être sûr de rien.
Clémence, c'est un lieu autogéré à Thessalonique.
Voilà, un espace social autogéré, micropolis, où jeunes et moins jeunes, accablés par la crise, on essaie pourtant quand même de changer le cours capitaliste des choses.
On écoutera ça à 7h32 précisément. Dany, aujourd'hui vous allez nous parler d'un film qui sort aujourd'hui et qui se penche sur la vie du peintre autrichien Egon Schiele.
Absolument, Lucas, il s'agit d'une biographie très élégante dont le réalisateur Dieter Berner a